J'ai voulu à cette occasion-là relever deux versets de l'épître de Saint Paul aux Romains, les deux premiers versets du chapitre 12, qui va dans le sens de la fête. Je ne prétends pas faire mieux que l'Église pour mieux choisir les épîtres pour les événements, mais je le choisis en fonction de ce que je veux vous dire, pas en fonction de la fête. Mais je crois que ça correspond aussi à la fête d'aujourd'hui, justement. Saint Paul dit, je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui lui est parfait. Pas ce qui lui est parfait, ce qui est parfait, pardon. Saint Paul parle de sacrifice spirituel, car au début de la vie de l'Église, quand l'Église commençait à s'émanciper des lois de l'Ancien Testament, donc de l'obligation de rendre un culte seulement à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, et des sacrifices qui étaient des sacrifices sanglants, où on offrait des animaux à Dieu, les prophètes avaient déjà montré que ce n'était pas ça les sacrifices qui étaient agréables à Dieu, mais que les sacrifices agréables à Dieu, c'est les sacrifices de nous-mêmes. C'est notre sacrifice, notre offrande. Et donc Saint Paul s'oppose par cette phrase-là, ce premier verset, au culte sanglant qui était rendu dans le temple, mais qui est un sacrifice extérieur à pour exalter le sacrifice spirituel, le don de soi. C'est un thème qu'on retrouve de nombreuses fois dans les épîtres, mais qui n'est pas le sujet sur lequel je veux attirer votre attention. Mais par rapport à ce verset-là, mis en rapport avec la fête de Sainte Marie l'Égyptienne, m'a fait penser à quelque chose. Vous connaissez la ville Sainte Marie l'Égyptienne. C'était une femme qui habitait à Alexandrie, qui se prostituait, et qui, pour gagner un peu plus d'argent, voyant que des pèlerins prenaient le bateau pour aller à Jérusalem en pèlerinage, a pris le même bateau qu'eux dans l'espoir de se faire davantage, d'arrondir ses fins de mois. Et la plupart des fidèles entrant dans l'église de l'Anastasis, de la résurrection, celle qui justement est fermée aujourd'hui, voient que les personnes peuvent rentrer et elles, une barrière invisible, l'empêche de franchir le seuil de l'église et d'entrer dans l'église. Et elle a beau réessayer, il lui est impossible de rentrer là. Et là, elle se tourne sur sa gauche, là où à cette époque-là, on voyait, il reste encore une chapelle d'ailleurs, une église à cet endroit-là, mais elle est cachée par des murs, là où la Mère de Dieu se tenait pendant la crucifixion. Elle se tourne vers cet endroit-là et prie la Mère de Dieu et décide de changer de vie. Elle s'aperçoit que c'est son changement, que c'est son état de pécheresse qui l'empêche de rentrer avec les autres dans le Saint-Sépulcre. Et à ce moment-là, elle peut aller vénérer le tombeau du Sauveur, elle va monter sur le Golgotha, elle fait ses dévotions, et elle se convertit tant et si bien qu'en sortant de là, elle descend vers le Jourdain, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres, et franchit le Jourdain et s'en va dans le désert parmi les bêtes sauvages, car à l'époque il y avait beaucoup de lions, par exemple, et pas exclusivement des lions. Et elle a vécu là pendant des années, en se nourrissant très très peu, on dit de trois lentilles. Je pense que ça, c'est une exode. Ça peut être des lentilles, ça peut être des fèves quand même. Pas mesquin. Jusqu'au jour où un moine, Saint Zosime, un moine du monastère de Saint-Gérasim, où plusieurs d'entre vous sont allés, sortant de son monastère pendant le carême, a rencontré dans le désert une femme non vêtue, qu'elle a revêtue de son manteau, de sa melotte, et qui lui a demandé de revenir l'année suivante, à la même date, c'est-à-dire le jeudi saint. Et Saint Zosime, un an après, lui a apporté la communion. Elle lui avait demandé de venir pour apporter la communion. Elle lui a amené la communion qu'elle n'avait pas eue depuis 35 ans. Et après avoir reçu la communion, elle demande encore à Saint Zosime de revenir l'année suivante. Et quand Saint Zosime est revenu l'année suivante, il a trouvé un mot comme quoi Sainte Marie-Ligène était décédée, était morte juste après avoir pris la communion, et où elle a raconté sa vie, que je vous ai résumée d'une manière un peu outrancière. Mais voilà les étapes de la vie de Sainte Marie-Ligène: pécheresse, se rendant compte de son péché, se rendant douloureusement compte de son péché, puisqu'elle ne peut pas entrer dans le Saint-Sépulcre, donc frustrée en quelque sorte de cela, à la lumière du Golgotha, à la lumière de la vision du Christ, en quelque sorte de la foi qu'elle a en Christ, cette lumière de la foi, elle se convertit et assume sa conversion par une vie d'ascèse extraordinaire. Voilà les étapes principales de sa vie. Et là, je vais vous en arriver. C'est que ceci nous montre, conformément à ce que nous dit Saint Paul précédemment, que toutes les épreuves, comme Sainte Marie-Ligène avait son épreuve de ne pas pouvoir entrer dans le Saint-Sépulcre, plutôt que de se rebeller, crier à l'injustice et tout ça, les épreuves, pour qu'ils souviennent aux hommes, toutes les épreuves, sans aucune exception, sont des épreuves bonnes, pas forcément agréables, c'est même rarement le cas, pas forcément qu'elles soient suscitées par des bonnes intentions, mais celui qui éprouve ces épreuves, qui est éprouvé, c'est pour son bénéfice. C'est pas forcément Dieu qui envoie ces épreuves-là, mais Dieu les permet et les tourne à notre profit, de manière à ce qu'elles deviennent des grâces pour découvrir autre chose. Les épreuves amènent, quelles qu'elles soient, amènent à celui qui est éprouvé à découvrir la qualité de sa relation avec Dieu. Quelle est la qualité de ma relation avec Dieu? C'est ça le sacrifice qui convient, qui plaît à Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Le sacrifice spirituel dont parle Saint Paul. Ce n'est pas les sacrifices extérieurs. Et on dit ça parce qu'on est à la fin du carême, là. On a bien jeûné, on a un petit peu jeûné, on n'a pas jeûné du tout, on a fait des entorses. Mais ça, c'est fini, c'est passé. On a encore une semaine comme ça, pour les optimistes, enfin pour les pessimistes. 15 jours pour les optimistes qui voient la semaine sainte, qui en font fait ascétiquement partie. Mais maintenant, cette période d'ascèse, en quelque sorte, se trouve dépassé. Maintenant, on va nous aussi entrer dans le Saint-Sépulcre comme Sainte Marie l'Égyptienne, après avoir souffert par les sacrifices, les épreuves symbolisées par notre ascèse carémique, par notre jeûne, nous allons et qui nous a fait prendre conscience peut-être de notre faiblesse, de nos passions, de nos péchés, hein, on va enfin, avec les autres, c'est-à-dire avec les saints, entrer dans le Saint-Sépulcre, dans l'Anastasie, contempler le Christ mort et ressuscité. C'est ce que nous allons vivre à partir de samedi prochain, quand nous allons voir les prémices de cette résurrection par la résurrection de Lazare, et après l'entrée triomphale à Jérusalem, et on va vivre en communion, comme on doit vivre tous les jours d'ailleurs, mais plus intensément, plus symboliquement, plus liturgiquement, avec les rameaux, les palmes, en procession avec les enfants d'Israël. les descendants de Jacob, et on va entrer avec le Christ de Jérusalem, on va faire le tour de l'autel, on va être intronisé avec lui, on va participer à son intronisation, et on va monter avec lui sur le Golgotha pour mourir avec lui, pour ressusciter avec lui, etc. C'est ça dont nous allons être témoins. Mais aujourd'hui, nous en sommes symboliquement, parce que c'est tous les jours que tout ça doit se vivre, évidemment, mais liturgiquement, on le vit aujourd'hui, on a cette conscience de l'épreuve, de l'épreuve que, comme Sainte Marie l'Égyptienne a eu la sienne par cette impossibilité d'entrer dans l'anastasis. En quoi consiste ce retournement intérieur? En quoi consiste pour nous, chacun d'entre nous, le même retournement qu'a eu Sainte Marie l'Égyptienne à l'entrée de l'église de l'Anastasis? Notamment, je fais fi tout de suite de nos petits péchés de gourmandise, de nos petits péchés d'orgueil, de nos petits péchés qui sont la manifestation réelle de passions profondes qui sont en nous. Donc je ne les minimise pas, mais vous croyez qu'on va perdre le royaume des cieux parce qu'on aura mangé un gâteau de plus au déjeuner ou par gourmandise? Soyons pas mesquins. Même si cette gourmandise là, ce gâteau supplémentaire manifeste pour moi-même, d'ailleurs manifeste ma passion d'amour pour moi-même, je me fais plaisir. C'est un exemple. Mais non, c'est pas ça le retournement qu'il nous est demandé, que le Seigneur nous demande dans l'Évangile. Le retournement, c'est qu'à travers ces épreuves, qui peuvent être des épreuves extérieures, c'est ça, comme l'épreuve que nous subissons tous tout de suite de ce climat social dans lequel nous sommes, des maladies, de cette maladie ou d'autres maladies dont nous pouvons être atteints, des catastrophes humaines dans nos santé, dans nos situations, dans l'évolution de notre vie, tout ça, ce sont des épreuves réelles. Mais dans ces épreuves-là, à quoi peuvent-elles nous servir? Comment peuvent-elles être transfigurées? Comment sont-elles des grâces que Dieu permet pour provoquer en nous un retournement? Comment elles manifestent ou elles nous aident à comprendre quelle est la qualité de notre relation avec Dieu? C'est que très souvent, nous prenons Dieu comme un outil. Nous prenons Dieu pour quelqu'un qui m'est utile, comme un Père Noël. C'est-à-dire, on demande à Dieu mille choses. Oh, avec la foi, on croit en lui. Mais on croit en quoi? En lui. Comment on croit en lui? On croit en quelqu'un qui va nous faire nos caprices, qui va nous faire voir un petit vélo à Noël ou une poupée pour Émilie au Noël prochain, ou qui va nous donner la santé, ou qui va guérir ma grand-mère, qui va me permettre d'avoir une situation professionnelle plus enviable, qui va nous permettre d'accomplir une œuvre à laquelle je me suis destiné, etc., etc., etc. On prend Dieu pour ça. Accorde-moi. Est-ce qu'on va, on lui demande même, dans les meilleurs cas, on va même lui demander la sainteté, le perfectionnement, de devenir meilleur, le repentir, toutes choses qui sont évidemment bonnes et qu'il faut aussi demander. Mais ces choses-là ne sont pas essentielles. Tant qu'on se présente devant Dieu pour lui demander quelque chose, c'est qu'on n'a pas encore compris qui est Dieu. Si on se tourne vers Dieu pour lui demander quelque chose, c'est presque de l'athéisme. Je dis presque, j'exagère, bien sûr. c'est un stade, disons, dans notre vie spirituelle. Il est normal de passer par cela. Donc ce n'est pas un mal en soi. Mais il faut dépasser cela. Croire en Dieu, c'est l'adorer. Adorer Dieu, ça veut dire faire sa volonté. Faire sa volonté, c'est-à-dire se dépouiller soi-même pour se donner à lui. C'est-à-dire, quand on a une épreuve, par exemple, quand on a une épreuve, accepter cette épreuve-là, non pas simplement comme une douleur, comme un pinsome, comme un embêtement dont il faut sortir à tout prix, mais discerner comment ceci est permis par Dieu et l'offrir à Dieu. Ça, c'est un acte d'adoration. L'adoration, elle est là. La qualité de notre relation avec Dieu, c'est quelle confiance on lui fait. On veut se servir de lui ou on veut qu'il se serve de nous comme lui veut le faire, comme lui sait qu'il est bon de le faire. Finalement, toute notre vie, tout notre apprentissage, toute notre foi, c'est de conduire, et c'est le but des sacrements, et de la prière et de l'ascèse, c'est de nous conduire à nous offrir nous-mêmes, à nous donner nous-mêmes comme des sacrifices de spirituelle odeur, comme les sacrifices, comme saint Paul disait, de qui sont bons, ceux qui plaisent à Dieu, ceux qui est parfait. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne cherchez pas à accaparer cette personne, mais vous cherchez à vous donner à cette personne. Je dépasse l'aspect affectif, psychologique et humain, bien sûr. Mais dans l'idéal, ça, humainement parlant, il est normal aussi que l'amour soit réciproque, si vous voulez. Mais quand on en est avec Dieu, si vraiment on a un acte d'adoration, une vie d'adoration à Dieu, on se donne à lui. C'est ça l'adoration. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu ? Non seulement les épreuves qui nous conviennent, mais, et j'en reviens à Sainte Marie l'Égyptienne, il faut apprendre à vivre avec nos échecs. Pas simplement à supporter nos échecs, c'est-à-dire supporter nos passions même, et nos péchés, mais accepter de les voir, pas en scrutant absolument des petits détails de ma vie pour voir en quoi je suis pécheur, mais pour voir comment gravement, par ma propre faute, sans rejeter la responsabilité ni sur mes parents, ni sur mon éducation, ni sur mon entourage, ni sur la société, ni sur les circonstances, ni sur je ne sais quoi, mais voir comment je suis responsable de ma vie. Comme Sainte Marie l'Égyptienne, qui prend conscience de la gravité de son état de pécheresse, en tant que prostituée, et qui supporte avec douleur, assume cette douleur-là, jusqu'à se tourner vers le lieu où était la Mère de Dieu, pour pouvoir entrer dans la basilique de l'Anastasis. C'est comme nos fautes, nos trahisons, nos manques graves de charité, notre égoïsme, qui se manifeste au pluriel. Tout ça qui se manifeste de différentes manières, mais à certains moments de grâce, tout d'un coup on en prend une conscience plus vive, ça peut nous amener à tomber littéralement la face contre terre et à dire à Dieu: Seigneur, je ne vaux rien, je ne suis rien. Tout ce que je suis, s'il y a quelque chose en moi, c'est toi qui me le donnes, c'est toi qui es. Et cette prosternation, c'est vraiment un acte d'adoration, c'est s'en remettre complètement à Dieu, ce qu'a fait Sainte Marie l'Égyptienne. Et c'est pour cela que l'Église nous met Sainte Marie l'Égyptienne comme modèle de ce dimanche, dernier dimanche de carême. Donc, entrons maintenant, changeons, vivons encore cette semaine ascétique, comme nous avons commencé le carême, ou même l'amplifiant, éventuellement, mais entrons dans cet autre aspect de la vie spirituelle. Maintenant que par notre jeûne, par notre prière approfondie, par notre retraite imposée même légalement, Préparons-nous à entrer dans le mystère de la vie du Christ. La Semaine Sainte va nous montrer au jour le jour, va nous faire revivre au jour le jour les événements historiques de la résurrection du Sauveur, que ce soit pas pour nous simplement une mémoire historique, mais que ce soit une entrée dans ce mystère-là. Et tout le carême aura n'arrêté qu'une préparation, qu'il ait été réussi, qu'il n'ait pas été réussi, qu'on ait beaucoup jeûné, pas beaucoup jeûné. C'est utile, mais c'est accessoire par rapport à cela. Et évidemment, cette assaise-là doit continuer après toute notre vie. C'est pas, les cycles liturgiques sont qu'une manière de revivre, parce que nous sommes incarnés, nous avons besoin de revivre, de revenir constamment dans les mêmes choses, dans les mêmes événements. Mais le mystère est unique. Et finalement, le mystère, c'est la présence de Dieu incarné dans notre monde, dans notre chair, et notre participation à sa vie elle-même, c'est-à-dire aussi au partage de sa gloire qu'il nous promet, mais qu'on n'a pas à rechercher en tant que tel. Ce n'est pas la gloire de Dieu dont il faut chercher à être... Si on lui fait confiance, on lui donne notre vie et lui nous donne ce que l'on peut. Ainsi, ne nous lamentons pas, d'aucune manière, ne nous lamentons pas sur les échecs qui sont les nôtres. Pourquoi je retombe pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, 70, il n'y a pas plus. Pourquoi on retombe ? Laissez ça, c'est le mystère de Dieu, ça. Nous acceptons notre faiblesse, acceptons que pendant 70-80 ans d'avoir été toujours dans une situation d'échec par rapport à nos passions, luttons contre, mais oublions ça de manière à mettre derrière nous nos passions et que nous soyons libres devant Dieu, nous soyons clairs devant lui, nous soyons illuminés, ne lui tournons pas le dos en nous fermant sur nos passions, sur nos échecs, mais adorons-le en esprit, en vérité, c'est-à-dire acceptons ce que nous sommes, acceptons notre faiblesse, acceptons nos échecs, acceptons nos passions, et attendons que le Seigneur Dieu dirige notre vie, nous donne à travers les circonstances, les événements, à travers les rencontres, à travers les lectures, à travers les découvertes, comme tout ça, c'est des tâtonnements, à travers cela, tournons, sachons que Dieu dirige notre vie, organise nos vies. Dieu nous parle, c'est un vocabulaire, Dieu nous parle à travers ces événements. Oui, il nous parle, mais j'ai autant de l'oreille, j'entends pas. Si j'ai dit d'une écoute par auditive, évidemment, ni même une illumination intérieure d'un coup qui quelquefois peuvent arriver réellement. Mais Dieu nous fait mûrir, il nous donne au fur et à mesure, à travers tout cela, il nous donne ce dont nous avons besoin pour que peu à peu, imperceptiblement, mais avec ce qui nous appartient de liberté, qu'on puisse collaborer dans cette œuvre. Et c'est ça qui nous amène à la résurrection et à la glorification. Mais la glorification, ce n'est pas à nous de la réclamer, c'est lui qui nous la donnera parce qu'il nous a créés comme ça et qu'il veut que nous soyons glorifiés. Mais nous oublions ça, ne l'oublions pas théologiquement, mais ne nous enfermons pas dans ces pensées et ne nous lamentons pas, ne nous crispons pas sur les épreuves que nous avons à subir.